RFI 15h30 à Kampala, 12h30 en temps universel. Tout de suite, le point sur l'actualité africaine, c'est Afrique Midi, avec vous Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. Et à la une de cette édition, le déploiement hier de militaires ougandais dans l'Ituri, à l'est de la RDC. Déjà présent dans la capitale provinciale Beni, l'armée ougandaise élargit donc son champ d'action en se positionnant cette fois dans la ville de Mahagi. La guerre dans l'est congolais et son impact sur la population. Depuis la prise de Goma par le M23 il y a plus d'un mois, l'argent, la monnaie ne circule plus dans la capitale provinciale du Nord Kivu. La solution se trouve de l'autre côté de la frontière à Gisenyi, où nous serons dans quelques instants. Dans cette édition, nous reviendrons également sur l'étalon d'or de Dany Kouyaté hier au FESPACO. À suivre aussi en ce week-end d'ouverture du Ramadan, le portrait d'un imam tchadien fervent défenseur de l'environnement. Et puis nous serons à Antananarivo où les supporters de l'équipe nationale de football pestent contre la CAF. Le stade à 77 millions de dollars ne répond pas aux normes des instances. Un nouveau déploiement ougandais hier dans l'est de la République démocratique du Congo. Des troupes positionnées cette fois dans la ville de Mahagi dans l'Ituri. Bunia, le chef-lieu de la province congolaise, avait déjà vu l'arrivée il y a 2 semaines de soldats ougandais. Dans cette zone frontalière, l'UPDF combat normalement des rebelles AFD aux côtés de l'armée congolaise. Mais Coralie Pierret, avec ce nouveau déploiement, l'armée ougandaise élargit donc son champ d'action.
Une colonne de camions, de 4x4 et de véhicules armés de mitrailleuses. Ce samedi matin, des soldats ougandais franchissent le poste frontière de Mahagi, une localité au nord de la province de l'Ituri, en chantant, sous l'œil surpris des habitants. L'objectif est de protéger la population. Un accord a été signé pour élargir la zone des opérations, confirme le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, sans donner plus de détails. Les soldats ougandais vont-ils se battre? Et si oui, contre qui? À l'origine, ils avaient été invités sur le sol congolais fin 2021 dans le cadre de l'opération conjointe Shujaa pour neutraliser les ADF, un groupe de rebelles ougandais alliés à l'État islamique. Sauf que le territoire de Mahagi n'est pas dans la zone d'action des ADF, c'est plutôt celle en partie de la CODECO et des Zaïr, deux milices locales d'autodéfense communautaire. Il y a environ 2 semaines, les Ougandais avaient déjà déployé des troupes à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un renforcement en hommes qui coïncide avec l'expansion plus au sud du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. La frontière entre la RDC et l'Ouganda est notre zone d'influence. Rien n'y arrivera sans notre permission, a rappelé le chef d'état-major ougandais et fils du président Museveni sur son compte X personnel. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Une mise en scène et un matraquage médiatique. Voilà la réaction de Kinshasa alors qu'hier le groupe armé M23 assurait avoir remis 20 rebelles des FDLR à l'armée rwandaise. L'armée congolaise assure de son côté que ces hommes, présentés comme des forces démocratiques de libération du Rwanda, n'ont jamais été capturés en RDC. De son côté, Kigali a reconnu pourtant avoir reçu 14 éléments des FDLR. Le Rwanda, qui a une nouvelle fois dénoncé la collaboration de ses combattants avec l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Dans ce contexte de guerre, les habitants de l'est congolais, justement, sont nombreux à traverser la frontière tous les jours pour aller au Rwanda. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, est occupée depuis plus d'un mois par le groupe armé du M23 soutenu par Kigali. Et depuis, les institutions financières de la ville restent porte-close. Conséquence, peu d'argent, de monnaie circule à Goma. Il faut donc trouver des solutions alternatives. Des solutions que certains gomatraciens vont chercher de l'autre côté de la frontière à Gisenyi. Reportage signé Lucy Mouyo.
Sur le parking d'une des banques à Gisenyi, presque toutes les voitures garées sont immatriculées en RDC. Eddie De Paul, habitant de Goma, a traversé la frontière de la Grande Barrière dans la matinée.
La guerre du M23, l'évasion du M23 à Goma, c'est la troisième fois que je viens au Rwanda pour le retrait d'argent parce que je dois honorer des factures, et la famille doit vivre.
Tous les jours, face au manque de liquidité à Goma, de nombreux habitants se rendent à Gisenyi pour récupérer de l'argent de leur compte bancaire ou depuis les bureaux de Western Union.
Les banques ne sont pas fonctionnelles. Même les distributeurs non plus. Hein. Les gens ne savent même plus survivre. C'est la situation économique, mais finalement, c'est devenu très, très catastrophique. Pour l'instant, on ne voit pas de perspective d'avenir d'amélioration de la situation, parce que rien n'est rassuré.
Accompagné de sa femme, David retire une partie de son salaire depuis Guisseni. Une opération qui coûte plus cher, mais seule option pour accéder à ses revenus pour le moment.
C'est toujours un peu compliqué avec le taux de retrait. Les banques ne sont pas les mêmes et tout, mais on est obligé pour avoir du cash. On retire en francs rwandais et puis on va dans un bureau de change. Soit on le change en dollars, soit on le change en francs congolais. C'est compliqué, mais bon, on est obligé, hein, c'est le prix à payer.
À Goma, les institutions bancaires attendent l'aval des autorités monétaires du pays pour ouvrir leurs portes. Lucie Mouillot, de retour de Guisseni, RFI.
Les autorités congolaises, toujours sans nouvelles de Monseigneur Donatien Tcholé. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo était pourtant invité hier à s'expliquer à Kinshasa, notamment sur un récent communiqué de la CENCO qui évoquait une chasse aux Congolais d'expression swahiliophone. Pour une raison encore inconnue, Monseigneur Donatien Tcholé n'a finalement pas répondu présent hier. En revanche, rendez-vous honoré pour Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, l'ex-parti de Joseph Kabila. Il faisait donc également des personnalités convoquées par le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité. Au Niger, une nouvelle attaque djihadiste dans la zone près de l'Algérie. Un décompte évoqué par la radio nationale fait état de 11 morts, alors qu'aucun bilan officiel n'a pour l'heure été annoncé. Dans le nord du Niger, dans la nuit de jeudi à vendredi, une position de l'armée a bien été ciblée par des djihadistes. De son côté, le JNIM assure avoir tué 15 soldats et blessé 5 autres. Ce nouveau coup dur pour l'économie sénégalaise, quelques jours après Moody's, c'est au tour de l'agence de notation Standard & Poor's de baisser la note du Sénégal de B+ à B, assortie d'une perspective négative. Concrètement, Dakar va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'auparavant. Alexis Bédu, ce déclassement s'explique entre autres par les révélations de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques et de la dette sénégalaise.
Le rapport de la Cour des comptes sénégalaise publié le 12 février dernier a pesé lourd dans la balance. La dette atteint quasiment 106% du produit intérieur brut. Les déficits cumulés entre 2019 et 2024 sont deux fois supérieurs aux chiffres officiels. Alors après Moody's lundi dernier, c'est au tour d'S&P de dégrader la note sénégalaise. L'agence de notation n'est pas optimiste quant à un redressement rapide de la situation. Inquiétude forte sur la soutenabilité de la dette alors que les intérêts atteindront 20% des recettes en 2025 contre 14% l'année dernière. En réponse aux chiffres révisés, le gouvernement a proposé un plan visant à réduire les déficits budgétaires futurs à 3% d'ici 2027. Ajustement difficile à mettre en œuvre et pari risqué selon S&P qui pointe également les incertitudes sur la croissance du pays. Elle est estimée à 9% grâce aux champs pétroliers et gaziers et c'est un mécanisme classique en économie. La dynamique pourrait bien être freinée par les efforts de réduction des déficits.
RFI, midi 38 à Ouagadougou, où le FESPACO s'est refermé hier soir. Et c'est le réalisateur burkinabé Dany Kouyaté qui a remporté le prestigieux étalon d'or de Yenenga. Une récompense pour son long métrage Katanga, la danse des scorpions qui plonge les spectateurs dans les coulisses du pouvoir et ses complots entre jalousie, haine, trahison et paranoïa. Frédéric Gara.
Représentant le jury de la catégorie long métrage, Martin Zongo a su longuement mais sûrement faire monter la pression auprès du public du Palais des Sports de Ouagadougou.
Le jury décerne l'étalon d'or de cette 29e édition du FESPACO au film Katanga.
Katanga!
Katanga! Sous l'ovation d'un public qui ne veut pas être bien vieux quand le vénérable Gaston Caboret a été récompensé en 87 pour Boudiam, Dany Kouyaté a lui dédié ce trophée à l'illustre malien Souleymane Cissé. Cissé, décédé quelques jours seulement avant cette grande fête du cinéma qu'il devait présider à Ouagadougou.
Souleymane Cissé a été pour moi un modèle. Il a tracé la voie que j'essaye très humblement de suivre. Je voudrais dédier cet étalon d'or au vaillant peuple du Burkina Faso et à tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille pour défendre notre patrie.
Katanga, la danse des scorpions, est une libre adaptation filmée en noir et blanc de Macbeth, la pièce de William Shakespeare, un film évoquant l'histoire d'un village pris dans les méandres du pouvoir d'un tyran. Une œuvre aux vertus intemporelles a cru bon de souligner le jury du FESPACO, tandis que le capitaine Traoré remettait l'étalon d'or à Dany Kouyaté.
Et pour le reste du palmarès du FESPACO, l'étalon d'argent a été décerné au Somalien Mo Araoué et celui de bronze à la Zambienne Rungano Nyoni. Le ramadan a débuté hier dans la majeure partie des pays musulmans de la planète. Un mois de jeûne lancé par un moment de recueillement en Afrique du Sud en hommage à celui qui était connu comme le premier imam ouvertement gay du monde. Mohsin Hendricks a été tué il y a 2 semaines au Cap où hier des centaines de personnes se sont réunies. Lui aussi est un imam pas tout à fait comme les autres. Au Tchad, le docteur Mukhtar Abdarrahman Sakine est enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales à la faculté de N'Djamena et titulaire d'un doctorat sur la pollution alimentaire. Une double casquette d'universitaire donc et de religieux qui se ressent dans les prêches de l'imam à la mosquée Al-Rana de Toukra où s'est rendu Igor Strauss.
Costume traditionnel et chaise blanc sur la tête, l'imam rappelle certains fondements de l'islam.
Le Coran ici met en garde contre la destruction de l'environnement. Au moment de la prêche, donc, j'ai dit toujours aux croyants, aux fidèles musulmans, donc, de ne pas couper les arbres, donc, et toujours, on les sensibilise sur la protection de l'environnement.
Une sensibilisation qu'il mène seul à son grand regret.
À N'Djamena et aussi dans le Conseil supérieur des affaires islamiques, nous comptons aujourd'hui plus de 700 mosquées. Et je suis le seul imam qui espère, je peux dire, un changement climatique.
Il souhaite donc sensibiliser les autres imams, car pour lui, aucun doute.
Parmi toutes les religions, il n'y a pas une religion qui préserve la nature autant que l'islam.
Pendant tout le ramadan, il prêchera donc pour la défense de l'environnement. Igor Strauss, N'Djamena, RFI.
Et en ce début de ramadan, moment de consommation effrénée, un homme a décidé de casser les prix pour attirer un maximum de clients. Un poissonnier marocain fait le buzz avec des prix défiant donc toute concurrence, mais passé l'affolement sur les réseaux sociaux, voilà relancer le débat sur la vie chère et les marges des intermédiaires. Le reportage de Mathias Reynal.
Il annonce les prix du jour et est immédiatement acclamé par la foule.
J'achète les sardines à 4 dirhams et je les revends à 5 dirhams le kilo. Où est le problème? Tous les ports sont accessibles pour moi afin de fournir du poisson aux habitants de Marrakech. J'achète des poissons au port, directement aux enchères.
Depuis une semaine, Abdelila El Ajout, jeune poissonnier de Marrakech, est devenu une star des médias. À la télévision, sur les réseaux sociaux, il est partout. Très charismatique, il dénonce avec verve les marges exorbitantes des intermédiaires.
Tous les poissonniers peuvent vendre au prix que je pratique, à condition d'éliminer les intermédiaires. Moi, je n'achète pas chez eux. Au Maroc, il y a une abondance de poissons. Les plus démunis doivent pouvoir en consommer à un prix abordable.
Abdelila a suscité des critiques au sein de sa profession, certains dénonçant des propos décorrélés de la réalité. Cette affaire montre à quel point, en tout cas, les prix alimentaires sont devenus un sujet sensible dans le royaume. Après des années d'inflation et de sécheresse, le ramadan, période propice à l'augmentation des prix, débute aujourd'hui au Maroc, alors que le pouvoir d'achat de la population est en berne. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Le tour cycliste du Rwanda s'achève aujourd'hui dimanche avec au programme une dernière étape courte et un enchaînement de côtes avec le mur de Kigali et le mont Kigali. Les deux ascensions iconiques de la capitale rwandaise jugent de paix d'une course encore pleine de suspense. Le français Fabien Doubet a repris hier le maillot jaune de leader, mais les 8 premiers du classement général se tiennent en moins d'une minute. Et puis, une nouvelle déconvenue, cette fois pour le football malgache. Le stade Barea d'Antananarive n'est toujours pas homologué par la Confédération africaine de football, la CAF. Pourtant, l'enceinte a été construite à grands frais il y a 3 ans, mais elle ne répond pas aux normes des instances internationales du football. Les supporters de l'équipe nationale malgache devront donc encore patienter avant de voir un match officiel à domicile. Guilhem Fabry.
Madagascar ne jouera pas ses 2 prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde à domicile, comme initialement prévu, mais au Maroc. Si la CAF note des améliorations au niveau de la sécurité du stade Barea, l'état de sa pelouse laisse encore à désirer. Le secrétaire d'État chargé de cette infrastructure, Gérard Andria Manoissou, regrette une multiplication de normes selon lui trop difficile à appliquer.
C'est dur de suivre le rythme. Il faut qu'à un certain moment, la CAF s'arrête. Parce qu'un pays comme Madagascar, qui a fait des efforts énormes, on a décidé de construire ce beau stade sur les normes de FIFA. Donc c'est pas logique que la CAF n'homologue pas un tel stade.
Construit en 2021 pour un coût de 77 millions de dollars, le stade a accueilli quelques matchs officiels avant qu'une bousculade ne fasse 13 morts lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'Océan Indien en 2023, entraînant le retrait de l'homologation. Depuis lors, Lalaina Rakotundrazak, président d'un groupe de supporters, attend de revoir son équipe.
C'est triste. Ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas eu de match officiel au stade. Et c'est la troisième fois que le stade n'a pas été homologué par la CAF. En 2 ans, si quelque chose n'a pas bougé, c'est qu'il a vraiment eu un problème. Peut-être qu'il n'est pas de la compétence. Peut-être aussi qu'il n'y a pas assez de moyens financiers. On espère que le président de la République prendra les choses en main aussi.
Des techniciens de la CAF et de la FIFA sont attendus ces prochains jours à Madagascar pour aider à restaurer la pelouse avant une nouvelle inspection prévue à la fin du mois. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
À Madagascar, où le cyclone Ondé a frôlé la côte sud-ouest ce week-end. D'après le premier bilan officiel publié hier, 3 morts et 42 blessés sont à déplorer. Même si l'épicentre du cyclone n'a pas touché terre, plus de 20 000 personnes ont dû quitter leur habitation pour rejoindre des sites d'hébergement d'urgence.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
Il est midi 46 en temps universel, la suite d'Afrique Midi avec vos chroniques du dimanche. Dans quelques instants, une halte à Bamako, au Mali, avec l'Afrique en marche. Nous serons au cœur du premier concours de robotique organisé par un jeune ingénieur passionné. À suivre également le deuxième épisode de notre mini-série consacrée à Dambudzo Marechera. Nous recevons aujourd'hui les deux traducteurs français du poète zimbabwéen. Et puis, la mode à l'honneur dans 100% création. L'artiste Vanessa Dia nous présente sa marque Rovodoa.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche et la robotique en marche ce dimanche avec à Bamako au Mali, le premier concours de robotique organisé par un jeune ingénieur passionné par les automates et la programmation informatique. En novembre dernier, Youssouf Sall a initié le premier concours du genre intitulé Malibot Challenge. Frédéric Gara.
À Bamako, Youssouf Sall, électronicien et informaticien, est un passionné de robotique. Surtout, ce qui l'enthousiasme, c'est le génie créatif de ses jeunes contemporains. Voilà pourquoi, en novembre dernier, il a décidé sur fonds propres et avec quelques généreux sponsors, d'organiser le premier concours robotique à Bamako, le Malibot Challenge, pour 5 équipes dans 5 catégories différentes. Youssouf Sall.
Malibot Challenge, l'objectif c'était la démocratisation des nouvelles technologies informatiques, électroniques, robotiques et tout ce qui s'ensuit. Rendre vraiment les technologies disponibles pour le plus grand nombre de Maliens et sans frais parce que l'accès à ces technologies-là demande des frais. Donc on s'est dit, la meilleure façon de faire profiter le maximum de jeunes Maliens, c'était de les faire participer à ces compétitions-là, que ça serve de grande science de la fête. De grandes fêtes de la science, au profit des jeunes du Mali. C'est vraiment ça l'idée derrière.
Drones, robots en catégorie universitaire ou lycéenne, développement d'applications, les challenges robotiques de novembre dernier à Bamako ont donné lieu à une formation des concurrents pour l'assemblage et la programmation, suivi du concours lui-même, avec toujours l'objectif d'une application concrète.
C'est ce qu'on a voulu en fait. On a voulu que ça soit axé sur un thème qui puisse servir au Mali. Par exemple, pour le cas du drone, on a voulu que des jeunes Maliens se forment au pilotage des drones pour que si jamais demain ils veulent devenir policiers, agents de forces de sécurité, qu'ils aient cette compétence-là pour pouvoir aider le pays. Les deux autres secteurs, nous les avons axés sur l'agriculture. Donc, il y a un tapis qui va simuler un champ et les jeunes avaient pour objectif de concevoir le robot pour qu'il puisse faire des tâches et de façon autonome. À un moment donné, il devait venir déclencher la pompe d'arrosage, arrêter la pompe et tout ça de façon autonome.
Le docteur Bonkana Maïga est enseignant et chercheur à l'université privée Bazo de Bamako. Bazo qui a accueilli le premier concours Malibot.
Il va de soi que ça donne l'occasion aux jeunes de se surpasser, mais aussi de tester éventuellement leur création. Donc, et aussi d'avoir des retours de la part d'experts et ce qui est de nature à les encourager pour la suite. C'est d'encourager les jeunes Maliens à aller vers plus les métiers techniques parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir industrialiser un peu plus notre pays, mais également encourager tout ce qui est service, autorité aussi, à encourager en fait ces genres d'initiatives.
Ce qui a le plus séduit l'une des concurrentes, Awa Sissoko, 20 ans, étudiante en gestion, c'est une machine à broderie permettant d'améliorer très nettement la qualité et la quantité d'ouvrages de couture.
Oui, bien sûr que ça nous intéresse, même ici au Mali. En cette formation, lorsque M. Youssouf nous a envoyé de faire la broderie numérique, il y avait nos maîtres et maîtresses aussi qui nous a expliqué des machines. Bon, Au Mali, ici, c'est pas facile de trouver ces machines ici. Donc, c'est ça même qui nous fatigue. Sinon, lorsqu'on a trouvé les machines, avec la machine, là, on peut bien faire la broderie, mais ici, c'est pas facile de trouver la machine. C'est ça, les grands problèmes ici au Mali.
Une machine à broderie automatique, c'est bien, estime Youssouf Sall, mais dans les prochains mois, lors du nouveau challenge Malibots, il s'agira de ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Par exemple, cette année, on veut faire un projet de voiture électrique autonome. On veut réunir une équipe d'ingénieurs qui travaillent sur la mécanique, sur l'électronique, sur l'informatique, leur donner comme projet de l'année qui va s'étaler sur 6 mois, de concevoir une voiture électrique autonome. Et le jour de la finale, la voiture devra venir être présentée. Les Maliens verront que voici des universitaires maliens ont travaillé sur une voiture électrique autonome et voici le résultat, ça fonctionne.
L'Afrique en marche, comme toutes vos chroniques d'Afrique Midi, c'est à retrouver en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Votre prochain journal sur RFI dans une dizaine de minutes, mais avant ça, un point sur les principaux titres de l'actualité internationale de ce dimanche 2 mars 2025. La trêve instaurée en janvier va-t-elle tenir au Proche-Orient ? La défense civile palestinienne fait état d'un bombardement israélien près de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. L'État hébreu dit avoir visé des suspects manipulant un objet explosif. Britanniques et Français travaillent de concert sur un plan de cessez-le-feu aux côtés des Ukrainiens. Le message est clair. La paix ne peut se conclure qu'en concertation avec Kiev. Et pour ce faire, Londres et Paris sont à la manœuvre face au rapprochement de Washington et de Moscou. Des nouvelles de la santé du pape François. Hospitalisé pour une double pneumonie, le souverain pontife a remercié aujourd'hui les fidèles du monde entier pour leurs prières et leur affection grâce auxquelles il se sent, je cite, mieux soutenu. Et puis les Oscars 2025, c'est aujourd'hui. Hollywood retient son souffle. Le tapis rouge a été déroulé. Hollywood est donc prêt à couronner le meilleur du cinéma aux Oscars. Ce dimanche, second volet de Chemin d'écriture consacré à Adam Buzo Marichera, l'enfant terrible des lettres zimbabwéennes mis à l'honneur dans un ouvrage posthume intitulé Cimetière de l'esprit. Ce midi, nous vous proposons un entretien avec les deux traducteurs du poète, Xavier Garnier et Pierre Leroux. Ils répondent aux questions de Tirthankar Chanda.
Bonjour Xavier Garnier.
Bonjour.
Bonjour Pierre Leroux.
Bonjour.
Pour Adam Buzo Marichera, tout commence par un trauma originel survenu à l'âge de 11 ans lorsqu'il se retrouve confronté au cadavre de son père, mort accidenté. Cette scène traumatique hante toute l'œuvre de Marichera, écrivez-vous dans votre préface à son recueil de poèmes « Cimetière de l'esprit ». Xavier Garnier.
Oui, c'est vraiment la scène traumatique par excellence. Suite à un accident de camion, il voit le corps de son père non seulement ensanglanté, mais aussi entaillé de partout. On le fait entrer dans cette salle pour qu'il voie son père. Ça a été un véritable trauma pour lui. Donc le caractère visuel de sa poésie, qui est une poésie vraiment de presque de voyeur, il voit la violence. C'est flagrant dans une grande partie de sa poésie.
Marichera est considéré comme l'enfant terrible de la littérature zimbabwéenne. D'où lui vient cette réputation, Pierre Leroux ?
En fait, c'est tout son parcours qui est une suite d'événements invraisemblables. Il affirme avoir été exclu de l'université d'Oxford parce qu'on lui a donné le choix entre rester ou passer un examen médical pour savoir s'il était fou. Il a vécu dans des squats à Thomas Square. Même son retour lui-même au Zimbabwe est un retour rocambolesque. On est en 82, donc le Zimbabwe est indépendant depuis 2 ans. Il y a une scène notamment avec 2 autres grands écrivains zimbabwéens où ils sont en train de discuter. Il vient à peine de les retrouver, il commence déjà à les traiter de vendus parce qu'ils ont des métiers de fonctionnaires. Et on lui dit, très bien, de quoi toi tu vas vivre maintenant que tu es rentré ? Et il leur dit, I'm gonna rough it up. Je vais vivre à la dure. J'ai déjà vécu à la dure, je m'en fiche. Et c'est ce qui met en scène, quelques temps plus tard, avec toujours cette tension entre les malheurs qui peuvent lui arriver et le fait que lui-même se tire parfois une balle dans le pied, lui-même se met en scène en écrivain maudit.
Son recueil de poèmes est organisé en 12 cahiers, mettant en scène les thèmes et les colères du poète. Quels sont les grands sujets de cette poésie, Xavier Garnier ?
Oui, il y a une poésie érotique qui est magnifique. Il a vraiment dans le rapport aux femmes quelque chose qui est d'une extrême sensibilité. Et en même temps, il est capable de raconter des scènes très crues et très violentes aux rapports sexuels. Il y a une poésie urbaine aussi, dont le grand texte « Trône de baïonnette » est une traversée de la ville d'Harare. On a aussi une poésie de l'évocation de sa vallée, le Lesapi, la vallée où il a passé son enfance. Ce sont aussi des très très beaux textes, ou une poésie paysagère d'une certaine façon. On pourrait continuer à décliner, il y a beaucoup beaucoup de dimensions de cette poésie très diverse.
Une diversité d'influences aussi, puisqu'on voit le poète aller puiser son inspiration dans la mythologie grecque et occidentale. Que viennent faire Ulysse et Hécube dans la poésie zimbabwéenne, Pierre Leroux?
Il y a une volonté chez Maretchara de dire, si vous êtes un écrivain pour une nation particulière ou pour une race particulière, alors allez vous faire foutre. C'est une citation qu'on retrouve tout le temps et qui est parfois même un peu galvaudée quand on parle de Maretchara. Il a une formation universitaire en littérature anglaise. Il connaît extrêmement bien la littérature européenne et ses racines. On a des références très, très érudites à Ulysse ou à Hécube dans ses textes. C'est aussi une manière de se définir lui-même.
Vous vouliez ajouter quelque chose sur le tropisme européen de Dambudjo Maretchara, Xavier Garnier?
Je voulais juste compléter quelque chose sur ce caractère très international de sa poésie, où il va aller chercher dans la littérature russe, dans la littérature antique, etc., énormément de références, et en même temps, donc ce qui pourrait apparemment être un paradoxe, une poésie très située, où le contexte notamment de la guerre d'indépendance de Rhodésie est très présent. Il a besoin du monde entier. Pour parler d'un détail biographique très précis ou d'un contexte régional aussi très situé. Donc il fait converger une littérature mondiale pour dire quelque chose ici et maintenant.
Xavier Garnier et Pierre Leroux au micro de Tirthankar Chanda. La mode contemporaine et les cultures africaines, voilà les inspirations de l'artiste Vanessa Dia, photographe et designer. Avec sa marque Rovodoa, Vanessa Dia propose des vêtements en série limitée ou des pièces uniques. Elle est au micro de Maria Afonso.
C'est un métier où on est souvent seul, même si on est souvent entouré. En tant qu'artiste, on crée en permanence. C'est reconnecter aussi avec soi et pouvoir le présenter aux autres. C'est tout un univers qui m'équilibre en tout.
Vanessa Dia, designer et fondatrice de Rovodoa.
Rovodoa, ancien bateau négrier qui transportait des esclaves pour travailler dans les Amériques. Ça m'avait beaucoup interpellée.
Vanessa Dia est née à Dakar. Elle a grandi entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun avant de s'installer en France. Sa passion pour la mode est profondément enracinée dans son héritage culturel et son engagement envers l'artisanat africain. Après des études en photographie et en école de commerce, cette designer cosmopolite crée sa marque Rovodoa en 2015 en hommage à ses ancêtres. Passionnée par le textile africain, Vanessa Dia crée des pièces uniques qui allie tradition et modernité tout en restant dans les codes de la mode.
Il faut ramener cette touche africaine à cette tendance mondiale parce qu'on ne va pas nager à contre-courant non plus. Sur place, tu vois les textiles, ça t'inspire. Quand tu parles de tes projets, il y a des gens qui sont férus justement de l'artisanat original de certains pays que tu ne connais pas toi-même, qui te prennent la main, qui te disent « Dans mon village, il y a tel textile qu'on utilise pour certaines cérémonies, tellement rigide que je suis pas sûre qu'on puisse en faire un vêtement moderne, mais toi, avec ta créativité, si je t'amène là-bas, je pense que tu peux créer la magie. »
L'engagement pour l'artisanat et son souhait de valoriser les textiles africains sont au cœur du travail de Vanessa Dia.
Le seul atelier avec lequel j'ai commencé depuis le début, c'est l'atelier des femmes au Cameroun, quand j'ai ouvert mon atelier personnel. L'intérêt pour elles, c'était qu'après, si elles avaient des projets personnels, elles puissent utiliser mes machines. C'est mon projet de cœur. Par contre, je fais des pantalons à pinces. Donc là, il faut des maîtres tailleurs. Il a fallu les trouver. Donc en Côte d'Ivoire, on m'a ramené chez un maître tailleur qui a formé aussi. Donc lui, il se charge de dispatcher mes commandes chez ses petits, comme on dit. Je peux compter sur eux. Et en général, c'est avec les mêmes hommes qu'on travaille sur Abidjan et les mêmes femmes au Cameroun.
Retrouvez l'univers de Rovodoa sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
100% création pour refermer cette édition d'Afrique Midi réalisée par Benoît Raymond. Frédéric Gara était à la rédaction en chef avec Pierre Vallée. Merci à eux. À suivre, le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous attendent 30 minutes d'informations en full day. Nos amis de la rédaction en full day qui investissent d'ailleurs aujourd'hui à un tout nouveau studio. Et puis, si vous nous écoutez en Afrique lusophone, vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'informations, cette fois en portugais.
Priorité santé.
Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain.
Nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à l'enfant préféré de la famille.
Mardi.
Faut-il poser des limites dans la lutte contre l'infertilité ? Quelle éthique pour les avancées thérapeutiques dans ce domaine de la médecine de la reproduction ?
Priorité santé.
Avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Demain sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Des drapés d'or indien aux caftans du Maghreb, des tissus de la cour royale du Laos, aux robes contemporaines de la chinoise Guo Pei, l'exposition Au fil de l'or nous fait parcourir l'histoire du métal jaune dans les arts textiles, quand orfèvres et tisserands conjuguent leurs talents.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU.